Mesdames, messieurs, bonsoir. Une des grandes difficultés durant le tournage d'un film est de savoir discerner quelles sont les économies qui vous épargnent des dépenses et quelles sont celles qui vous ruinent. Donner 1 million par jour, pour un jour, à telle vedette considérable, économie. Engager pour un rôle bref un comédien mauvais, payer très bon marché, folie. Folie parce qu'il faudra tourner 8 ou 10 fois la scène. Folie parce qu'il faudra finalement le remplacer par un bon comédien qui n'entrera pas dans le costume. Folie parce que rien n'est plus coûteux que la pellicule, sinon le temps et sinon la santé. Or, un mauvais acteur, pour peu qu'on soit patient, peut très bien vous donner une crise de nerfs et vous faire perdre 1 million. Je suis prodigue de conseils et n'ayant pas pour habitude de demander aux acteurs des choses que moi-même je ne serais pas capable de leur montrer, je me flatte de pouvoir leur indiquer certains subterfuges et même des roueries propres à leur faciliter la tâche. Mais devant un mauvais acteur, je me sens désarmé. Parfois, il m'est arrivé de m'entendre dire à l'oreille, par la script girl ou l'assistant pris de pitié, « Faites-le lui répéter encore une fois ou deux », et je répondais « Non ». Non, parce qu'il n'y avait rien à faire et que c'était peine perdue. Il y a tant de malheureux, hommes ou femmes, qui ne comprendront jamais que jouer la comédie, c'est l'art de faire semblant. Et il faudrait au moins 6 mois pour leur apprendre à faire semblant de faire semblant. C'est-à-dire, en somme, à jouer faux. Ce qui est pour un acteur la pire des disgrâces. L'emploi d'un comédien ou d'une comédienne est chose délicate, et d'autant plus que les acteurs, moins ils progressent, plus ils deviennent vaniteux. Je me souviens d'une actrice que j'avais engagée pour une pièce et à laquelle j'avais indiqué comment elle devait jouer son rôle. À la 3e répétition, revenant sur ce que je lui avais dit, je lui donnais de nouvelles indications qui se trouvaient en contradiction avec les premières. Elle s'en étonna. « Mais vous m'aviez demandé le contraire. »« Oui, mademoiselle, et j'ai mes raisons pour cela. » Mes raisons, je ne les lui ai pas données, elles peuvent se résumer ainsi. N'ayant pas pu lui faire jouer son rôle avec ses qualités, j'allais m'efforcer de le lui faire interpréter avec ses défauts, mettant son trac lui-même au service de son rôle. Mais ce sont là des tours de force à éviter car ils sont sans lendemain. Une chanteuse qui chante faux, cela fait mal aux oreilles, mais c'est accidentel. Un acteur qui parle faux, c'est irrémédiable. Et pourtant, je dois dire qu'à cette règle, il y eut à ma connaissance une exception. L'admirable créatrice des principales pièces de Feydeau, qui se nommait Cassive, parlait faux. Par exemple, elle disait « Bonjour mon coco !» Mais chose phénoménale, elle parlait faux et elle jouait vrai. Car elle jouait la comédie comme personne et personne depuis n'a joué la comédie comme elle. Vous ayant donné un exemple de sa façon singulière de parler faux, je voudrais vous en donner un de sa façon véridique, sincère, naïve de jouer vrai. Au premier acte de « Occupe-toi d'Amélie », une amie à elle lui révélait « Mon premier amant a été un Danois ». Et elle répondait « Oh, un chien !» Je ne pense pas que jamais personne ait pu dire aussi bien ce mot qui faisait éclater de rire la salle. À vrai dire, il faudrait n'être joué que par de grands acteurs, c'est-à-dire par des acteurs, car somme toute, il n'y a pas de petits rôles, et toutes les fois qu'un acteur parle, il est, pendant qu'il parle, le premier sur l'affiche. Et quand on s'adresse à lui, il est le second. Coquelin a dit un jour à un comédien « Tu as un rôle intéressant dans la prochaine pièce, car à un moment je te parle. Vanité d'un très grand acteur ? Non. » Coquelin disait vrai. « Écouter est un art, et qui ne sait pas écouter ne saura jamais parler. » Au premier acte des Revenants d'Ibsen, la grande tragédienne italienne La Douze écoutait une tirade, celle du médecin, qui durait, je crois, 10 minutes. Elle l'écoutait sans dire un mot, sans faire un geste. Et à la fin de la tirade du docteur, c'était elle qu'on applaudissait. Je dois dire d'ailleurs que dans ce film, j'ai recueilli des témoignages exceptionnels et pourtant nombreux de conscience professionnelle et de compréhension de la part de mes interprètes. Aucun parmi les plus notoires ne s'est plaint de ce que son rôle fut trop bref. Et tous, ils savent bien qu'avec quelques répliques, un acteur peut donner la mesure de son talent. Je me souviens qu'à cet égard, Marie Marquet m'a fait un jour une réponse excellente. Je me trouvais ce jour-là dans la nécessité de supprimer une réplique de son rôle. Je la priais de m'en excuser et elle me répondit « J'adore le cinéma muet ». Seule une actrice de talent, de grand talent, pouvait avoir cette pensée que cette réplique, elle saurait la jouer sans avoir à la dire. J'ai devant les yeux un grand cahier sur lequel mon père écrivait au courant de la plume ou du crayon tout ce qui lui passait par la tête. Et, tenez, voici, concernant son métier, ce qu'il en dit. Nul ne saurait en parler mieux que lui. Si j'avais en face de moi quelques jeunes gens qui se destineraient au théâtre, je leur dirais ceci. Si vous n'aimez pas le théâtre par-dessus tout et même par-dessus le succès, allez-vous-en. Faites donc autre chose. Si vous n'êtes pas acteur, au fond de votre cœur et exclusivement acteur, fichez ça en plan et sauvez-vous. Regardez, écoutez, il y a autant à apprendre des mauvais que des bons. Allez voir souvent des comédiens et tout le temps amusez-vous de ce qui est sur cette merveilleuse terre. Faites imitation de tout, sauf dans votre état. En scène, en jouant, n'imitez personne. Soyez inimitable. Si un acteur vous plaît malgré son tic et quelquefois même à cause de cela, tâchez donc de l'évader de son tic et voyez si en poussant moins, il ne serait pas meilleur. Mais c'est surtout en découvrant la beauté d'une belle et jeune expression humaine, animale, qu'il faut vous dire « Ah, si on faisait ça sur scène, pourquoi pas ?» Et faites-le si l'occasion s'en présente. Étudiez tous les rôles, étudiez-les, travaillez-les pour les autres. Dites-vous, ah, si on me donnait cette réplique de la façon que je souhaite, comme je dirais bien la suivante, et si nous continuions ensemble jusqu'au bout, comme le public aurait du plaisir, et aussi quel plaisir il aurait de notre plaisir. Car il faudra toujours penser au vôtre. C'est à vous d'être exigeant, sévère et d'être homme de goût. Le goût, cela se forme. Allez au Louvre, au Prado, à la Pinacothèque, partout où la beauté et la splendeur s'accumulent. Laissez-vous émouvoir par les inimaginables chefs-d'œuvre de ces vrais bienfaiteurs, les artistes. Et si vous avez des battements de cœur en présence du serviteur infidèle de Rembrandt, laissez faire. Si vos larmes vous gênent un peu pour voir, vous n'en verrez que mieux tout à l'heure. Et puisqu'à l'instant je vous ai parlé de la Douze, de cette merveilleuse actrice italienne, que la plupart d'entre vous, hélas, n'ont certainement pas connue, laissez-moi vous lire l'opinion que mon père avait d'elle. Elle était si miraculeusement belle dans l'infortune amoureuse qu'elle semblait s'en faire un doux enivrement. Elle disait à la souffrance, à la douleur, avec un sourire, « Allons, venez avec moi. Pour me venger de vos atteintes, je vous ferai belle aux yeux de tous. » Et elle les faisait aussi belle que le bonheur. Et alors, avec cette grande conscience professionnelle qui n'était que son plaisir, sa joie, sa fierté depuis son entrée en scène, jusqu'à la chute du rideau, elle était là, dans son rôle, d'un bout à l'autre de la pièce, sans une négligence, sans une absence. Non, non, son personnage qui ne la quittait pas et qu'elle ne laissait jamais seule eût pu lui poser à chaque parcelle de seconde la question que terriblement se jettent parfois les amoureux. « Vite ! À quoi penses-tu en ce moment ? Vite, vite !» Et elle eût répondu comme les amants, « À toi. » Or, vous ayant donné son opinion sur la Douze, voici ce qu'il pensait de Sarah Bernhardt. Sarah, splendeur incomparable, et ce mot a une valeur, n'est-ce pas? Sarah, monstre sublime de grâce, de puissance et de noblesse. Sarah, qui pouvait parler de ce sacré soleil comme du Dieu dont elle était descendue, en nous faisant dire « mais oui, au fait ». Sarah, que nous nommions Sarah quand nous parlions d'elle, et que nous appelions Madame quand nous lui parlions. Oui, Madame, mais en deux mots, car elle était véritablement notre dame du théâtre. Enfin, voici quatre lignes de lui qui sont bien éloquentes et combien instructives. On lui avait demandé comment il voyait, comment il se représentait le public. Et Lucien Guitry a écrit ceci. « J'ai trois spectateurs. Un qui est sourd comme un tapis, un autre aveugle comme une taupe, et le dernier intelligent plus que personne au monde, fin, sensible, spirituel au-delà de toute attente, seulement il ne comprend pas un mot de français. Donc il s'agissait pour lui de convaincre les trois. Et il y parvenait, tenant compte toujours des particularités de chacun. Son visage exprimait tout ce que le sourd n'entendait pas, ses intonations s'adressaient à l'aveugle, et son jeu traduisait tout ce que l'étranger pouvait ne pas saisir. À lundi soir, mesdames, à lundi soir, messieurs.